Les voies de service. J'ai déjà oublié la date. Mercredi 25 avril. Ben, c'est ça, il fallait juste que je manque une semaine pour que je puisse renouer avec mes trous de mémoire. Cette semaine, c'est encore un magazine dans l'intimité, alors qu'on est seulement deux. Daniel Lachance se repose à la maison. Enfin, il fait bien ce qu'il veut. On n'a pas plus de détails, mais il est absent. Et j'ai avec moi Serge Bradet.
Bonjour.
Et moi-même, je suis Isabelle Falardeau. Et aujourd'hui, on va vous parler... Ben moi, je vais empiéter un peu sur votre sujet, mon cher Cherz. Serge, je vais vous parler un peu d'histoire en vous parlant de trois Autochtones qui se sont illustrés dans la Première Guerre mondiale. Oui. Et puis, je vais aussi parler de la décolonisation, une plus grande présence autochtone à l'université. Et aussi un peu un retour sur les effets des révélations du scandale Jovenot en Côte-Nord. De votre côté?
Moi, je vais vous parler... Rappelez-vous du Concorde?
Le Concorde, un bateau.
Non, l'avion, le merveilleux avion supersonné.
Ah, l'avion, oui, oui. Oui, celui qui allait tellement vite.
Oui. Alors, le Concorde, chronique d'une mort annoncée. Ensuite, Jean Cocteau. On connaît tous.
Oui, bien sûr.
Mais vous savez, il était habité par des démons. Alors, les démons de Jean Cocteau.
Qui ne l'était pas à son époque.
Oui, bien, c'est ça, oui. Oui, le pauvre. Et si on a du temps, j'ai un article en réserve, comme nous ne sommes que deux.
Oui.
L'entente cordiale, la fontaine de Tourny à Québec.
Ah, intéressant.
Oui, fontaine qu'on a, qui a été subventionnée par la famille Simons.
Les fameux
magasins. Je ne sais jamais si je dois dire Simons ou Simon, en tout cas. Bon. Et ils ont fait installer une très belle fontaine à Québec. Et il y a un article sur ça. Je ne lis pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine.
Excellent programme. Alors, on commence avec le Concorde.
Oui, ce magnifique avion. Je ne sais pas si vous l'avez sans doute vu sur...
Je ne l'ai pas emprunté.
C'était très coûteux, comme on va le voir dans le... Oui. Mais vous l'avez sans doute vu sur film ou en reportage télévisé. Moi, j'ai eu la chance de le voir passer. Une fois, il est venu à Montréal. Écoutez, c'était en 15, 16, quelque chose comme ça. Et il a longé, il a remonté le fleuve Saint-Laurent. Et il est passé au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Et à ce moment-là, je travaillais à Radio-Canada et on était monté dans la tour au, je sais pas, au 18, 19e étage.
Oui, il devait avoir et une belle vue sur le fleuve.
Et on l'avait vu passer, c'était magnifique. Quand il flottait dans les airs.
Ah, ça devait être impressionnant.
Oui, c'est un très, 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 très beau bateau, avion. Ben, un bateau des airs.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est un article qui est dans la revue Histoire de septembre 2003. Alors, Concorde, chronique d'un échec annoncé. Alors, le 31 mai 2003, le Concorde effectuait son dernier vol commercial Paris-New York. La fin d'une aventure technique exaltante commencée en 1969, qui, dès les origines, a masqué un échec commercial retentissant. C'est un article de Jean-Louis Loubet, professeur à l'Université d'Évry-Val-d'Essonne.
Donc, dès les débuts, on savait déjà que ça n'allait pas marcher. Intéressant.
Ouais. Ben, les coûts étaient très, très élevés, astronomiques.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Alors, et est arrivé aussi l'augmentation des prix du pétrole, etc.
Oui, c'est ça. Ça a eu un impact.
La concurrence aussi. Alors, en 1958, toutes les compagnies aériennes ont les yeux rivés sur le Boeing 707, un quadriréacteur long courrier. Le 707 est fiable et bon marché, capable de transporter 147 passagers à 950 km/h sur 9200 km, à des tarifs peu élevés, grâce à la naissance de la classe touriste en 1952 et du vol charter en 1954. Face à ce premier avion de transport de masse, la Caravelle, fleuron de l'aviation française, qui effectue son premier vol commercial en 1959, fait pâle figure. 80 à 100 sièges pour 147, 2000 km d'autonomie, 2 réacteurs. Le bilan des ventes est sans appel. 1010 Boeing vendus dans le monde contre 280 Caravelle. Le marché appartient au long courrier.
C'est assez flagrant.
Ouais. Dès 1959, les pouvoirs publics français tentent de relever le défi et lance l'étude du SST, supersonique de transport, un bijou technologique que les ingénieurs de Dassault et ceux d'aviation imaginent en des termes superlatifs. Mach 3, trois fois la vitesse du son, impressionnant. L-Delta, fuselage droit et décollage vertical. L'entreprise est considérable, mais divise d'emblée deux acteurs, les politiques et les ingénieurs enthousiastes. Les fabricants et les exploitants, sceptiques. S'agit-il d'une nouvelle querelle des anciens contre les modernes? Bon, pas tout à fait. Les politiques ont la vision d'un monde où les deux superpuissances, l'URSS et les États-Unis, ont jeté leur dévolu sur la conquête spatiale. Lorsque John Kennedy annonce en 1962, un an après le premier vol habité de Yuri Gagarin, que les États-Unis seront les premiers sur la Lune, il est clair que la bataille de l'aviation n'intéresse plus ni les Américains ni les Soviétiques.
Ils sont déjà rendus dans l'espace.
Ben c'est ça. La place est donc libre pour les autres États. Au point que les Français ne sont déjà plus seuls en course, les Anglais ont leur projet SST, conduit par l'avionneur de Havilland. Le général de Gaulle met tout son poids pour convaincre le premier ministre Macmillan de la nécessité d'une coopération franco-britannique. Tâche ardue au moment où le président de Gaulle a barré la route européenne à la perfide Albion, au marché commun à l'époque. Mais ô combien nécessaire devant le savoir-faire de Rolls-Royce et les errements d'une SMECA, Société nationale d'études et de construction des moteurs d'avion, que, si l'on en croit de Gaulle, n'a jamais su faire un moteur d'avion. De Gaulle avait le sens de la, la phrase punchée, là. Au nom de ce prestige gaullien, la vieille Europe aurait le plus bel avion du monde. Français et Anglais signent un accord le 29 novembre 1962. Ils s'entendent sur le nom très symbolique de Concorde, c'est-à-dire c'était Concorde, auquel les Français ont exigé que soit ajouté un E final pour le rendre le plus Frenchy.
Oui, ça c'était à l'époque où les Français parlaient français.
Oui. Les ingénieurs sont aux anges. Même si des concessions sont nécessaires entre les Français, plutôt architectes, et les Anglais, davantage motoristes. Prévu pour 1,8 milliard de francs, il dépasse les 14 milliards.
Ouch!
Oi, oi, oi.
C'est un léger dépassement de budget.
Oui, on parle du 10 fois plus à peu près. Il n'y aura pas de décollage vertical, bon, ni de version moyen et long courrier, mais une vitesse maximale de 2,2 Mach, plus de deux fois la vitesse du son.
C'est quand même appréciable.
Oui, c'est oui. Soit près de 2700 km, donc trois fois plus vite qu'un Boeing, et une très haute altitude, 18 000 mètres, pour le meilleur confort des passagers qui voleront au-dessus des turbulences dans une cabine très bien pressurisée. Alors, les prouesses techniques sont à la mesure des difficultés rencontrées. L'avion est un alliage léger, RR58, pour supporter les écarts de température extrême.
Ah oui.
Moins 57 degrés centigrades à l'extérieur et 127 degrés centigrades, en plus, là, en chaleur, sur la peau de l'avion, du fait des frottements.
Ah oui.
C'est des méchants écarts.
Oui, tout à fait.
Réparti dans la voilure, le kérosène fait office de refroidissement le long du bord d'attaque des ailes. Cela nécessite une parfaite maîtrise du transfert de carburant, sous peine, évidemment, de déstabiliser l'avion.
Évidemment.
La géométrie des ailes est redessinée à deux reprises, entre 1969 et 1972, tant les problèmes de maniabilité et de portance sont contradictoires à basse et à haute vitesse. Enfin, la dilatation de la cellule est telle que l'avion s'allonge de 24 cm à Mach 2.
Ah, oh, 24 cm!
Oui, c'est quand même 8 pouces et
ça
quelques...
Ça prend une ingénierie
C'est
spéciale.
Obligeant ici à adopter des systèmes électriques jusqu'alors inconnus. Les difficultés techniques qui renforcent l'opposition de la SNIAS, son fabricant, et d'Air France. Tous deux inquiètent du coût et de la rentabilité de l'avion. Prévu pour 1,8 milliard de francs en 1962, le Concorde va dépasser les 14 milliards 10 ans plus tard, devenant un symbole de colbertisme high-tech, en référence à Colbert, le grand ministre de Louis XIV.
Oui.
Qu'importe, puisque les ventes se préparent, 16 compagnies aériennes, la plupart américaines, ont passé 74 options de commande en 1970 pour un seuil de rentabilité fixé à 130 appareils. Et un marché évalué à 250 ou 500 avions. C'est quand même pas mal. Hein?
Oui.
Relier l'ancien et le nouveau monde en 3h30 contre 7 heures en Boeing.
C'est quand même une, vraiment une grosse... Et c'est ça qui faisait que les gens l'empruntaient.
Oui, vous pouviez aller à New York, partir de Paris à la New York en meeting
et
revenir dans le coucher chez vous le soir.
Donc, pour des gens d'affaires, ça valait vraiment la peine de payer cher.
Ben oui. Alors, mais seulement ce temps-là est-il un avantage? Même avec un billet ne devant pas excéder 30 % de la première classe. Oui, mes politiques ingénieurs ont raisonné dans la seule vision d'un Paris-New York, allant jusqu'à oublier de concevoir des réservoirs suffisants pour un Frankfurt-New York.
Oh!
Eh oui, c'est ça, ça pourrait faire que New York-Paris.
Eh oui, c'est ça.
Ou de réfléchir aux conséquences des décalages horaires sur les vols de retour. Dans le sens ouest-est, la vitesse se transforme en désavantage. Les pouvoirs publics ont beau affirmer qu'il y aura des dessertes en Europe, personne n'y croit. Concorde n'est pas exploitable sur de courtes distances, l'avion n'ayant pas le temps d'atteindre sa vitesse supersonique. C'est un des avantages.
Ben, oui, c'est un léger détail.
Ouais. Plus grave, la plupart des pays ont interdit dès 1969 le franchissement du mur du son sur leur territoire par les vols commerciaux, France comprise. Concorde n'aura pas besoin d'attendre 1976, date de son autorisation d'atterrissage à Washington, pour connaître son sort. En 1970, Boeing lance le Jumbo 747, son antithèse. 400 passagers contre 100, 850 km/h contre 2700 et 11 002 tonnes de carburant à l'heure contre 20. Les Français refuseront de reconnaître leurs erreurs, préférant accuser les lobbies américains de manipuler les riverains d'aéroports et de reprocher aux Concorde de détruire la couche d'ozone.
Il y avait un peu de ça quand même.
Oui, oui, oui. Le chat, et apparemment que quand il pouvait être assez bruyant quand il le Concorde, quand il franchissait le mur du son.
Oui, bien, ça doit, c'est ça.
Le choc pétrolier de 1973 rend évident l'effondrement des commandes qui, pour la plupart, étaient antérieures à l'envolée du prix de l'énergie. Les deux compagnies publiques, Air France et British Airways, sont invitées à honorer leurs 9 options d'achat. Sans argent, elles obtiennent des subventions pour les payer. Quant aux 5 Concorde restants, ils sont vendus à ces mêmes compagnies, un franc ou une livre symbolique, livre anglaise. L'entretien des appareils et leur exploitation ont un coût si élevé que le prix des billets flambe. Un aller-retour Paris-New York coûte, tenez-vous bien, en 2002, 8 200 €.
Ouch.
Là, c'est complètement prohibitif.
Ouais, c'est plus
là.
Les gens d'affaires, là, c'était l'échec.
Ouais, ouais. Même
de
quelqu'un d'affaires, tu sais. Soit 50% de plus qu'un billet de première classe. Le coût total de l'opération Concorde est astronomique. De 1959 à 2003, il atteint 20 milliards d'euros pour à peine plus de 235 000 heures de vol et 4 millions de passagers transportés. Et
finalement, c'est impressionnant qu'il ait duré aussi longtemps.
Oui, quand même, oui, oui. Pourtant, un mythe est né, celui du plus bel avion du monde. Il était beau.
Il était beau, c'est vrai.
Qui devient aussi le mal-aimé des pays qui n'ont pas su le construire ou l'exploiter. Pour Air France et British Airways, Concorde a été un emblème, une exception qui a permis de croire que l'aviation civile gardait son aura d'autrefois. Il a enthousiasmé ses rares clients et ses nombreux passionnés. Il a aussi fait rêver ses personnels en les aidant à oublier la réalité quotidienne du transport de masse. 30 ans après son premier vol, l'histoire attrape le mythe. L'accident du 28 juillet 2000, on se rappelle de l'avion qui
s'était
écrasé
en
France.
En
France, oui. L'accident 2000 ébranle des certitudes. Polluant, bruyant, glouton et coûteux, Concorde est finalement terrassé par la crise des transports aériens née des attentats du 11 septembre.
Ouais,
une mort,
la goutte
ouais,
ben
c'est ça, une mort sans successeur. Ouais. Petite note, j'ai parlé à des gens qui avaient pris le Concorde et qui disaient c'est pas très confortable. Hein.
C'était même pas si confortable.
Non, les sièges étaient très petits, c'était très cloisonné. Mais par contre, c'est juste 3h30 pour relier l'Europe avec le New York, les États-Unis. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Serge.
Plaisir.
Marche aux fleurs, je suis prospère et sur la coche, c'est au plus fort la Porsche. On ne s'en fait pas avec l'avenir, on aura chaud, tu seras beau bébé, comme le crash du Concorde. Oh ma chérie, on fait son paradis. Le bras canadien. Dans mon pays, on fait son paradis. Oh, oh. plastique au large du Pacifique. Pour oublier nos malheurs à venir, je te marierai sur le rivage et tu seras belle dans ta robe camouflage. J'ai tout compris, on fait son paradis.
De rock and roll, Patrice Michaud et Le Crash du Concorde.
Ah, je ne connaissais pas cette chanson, mais ça m'a donné le goût d'écouter Patrick Michaud. Merci beaucoup.
C'est pas une blague,
Patrice,
c'est vraiment
Michaud.
Ça?
Patrice Michaud.
Patrice, oui, excusez-moi.
C'est le titre?
C'est le titre de la pièce, Le Crash du Concorde.
Eh oui, La Chute du Concorde, eh ben. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler d'éducation et décolonisation. Le titre de l'article « Quand savoir et culture autochtone entrent à l'université », c'est un article qui a été publié le 16 avril sur le site web de Radio-Canada et qui est signé Laurence Niozzi. Depuis quelques années, des universités canadiennes font des efforts conscients pour intégrer le savoir et les philosophies autochtones dans leur enseignement et leur recrutement. L'Université Concordia à Montréal fait figure de précurseur au Québec, ayant récemment créé deux nouveaux postes pour autochtoniser l'institution. Revoir le cursus des cours, inclure des perspectives autochtones, inviter des conférenciers provenant des communautés, préparer des ateliers pour enseigner aux employés des approches décolonisées. Depuis janvier, la nouvelle conseillère en programme d'études et en pédagogie autochtone, Donna Goodleaf, a de quoi se tenir très occupée. Et là, si vous me permettez, je fais une petite parenthèse parce que ça fait plusieurs fois que je rencontre le mot décoloniser ou décolonisation dans le contexte de mes articles sur le monde autochtone. Et je suis toujours un petit peu perplexe. Alors, j'ai trouvé un peu une définition dans un article qui date d'août 2017 que j'ai trouvé sur La Presse Plus. Et où on nous parlait d'une initiative du collège John Abbott pour rendre plus visibles les affaires autochtones dans l'enseignement. Alors, on nous offre dans l'article une définition de la décolonisation. Alors, la décolonisation consiste à défaire les effets de la colonisation, on pouvait s'y attendre, désapprendre la pensée dominante colonialiste, inclure du contenu autochtone dans le curriculum, en apprendre davantage sur eux et reconnaître leur contribution dans la société. Et un peu plus loin, on nous précise, dans le domaine de l'enseignement, la décolonisation consiste à questionner les relations de pouvoir, les hypothèses eurocentriques qui privilégient les perspectives euro-canadiennes. Je ne sais pas si vous en avez appris un petit peu plus, mais en tout cas, c'est ce que j'ai réussi à trouver, parce que décolonisation, c'est généralement, on en parle dans le contexte d'une ancienne colonie. Par exemple, Haïti qui a accédé à l'indépendance, ça, c'était une décolonisation, une forme de décolonisation, mais dans le contexte autochtone, j'étais pas complètement certaine. Alors voilà, donc on parlait de Donna Goodleaf, qui est donc la nouvelle conseillère en programme d'études et en pédagogie autochtone. Alors, il s'agit de regarder l'histoire de Concordia et ses limites en termes d'offres de cours et de recrutement du personnel autochtone, résume la Mohawk de Kanawake, embauchée plus tôt cette année avec Geneviève Sioui, qui, elle, est nouvelle coordonnatrice de l'engagement communautaire autochtone. Et elle, de son côté, qui est Huron Wendat, est chargée de créer des partenariats avec des organismes autochtones, notamment par l'entremise de jumelages avec les étudiants. En créant ces liens, l'université envoie un message clair, estime Geneviève Sioui. Nous disons que nous valorisons les valeurs autochtones, les façons de faire les choses, et nous voulons inclure cela à l'université et avoir cet échange de connaissances. Partout au Canada, des démarches pour mettre en pratique la réconciliation se sont accélérées depuis la publication du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015, dont plusieurs recommandations concernent spécifiquement les universités et les cégeps. L'Université Lakehead à Thunder Bay et l'Université de Winnipeg obligent par exemple leurs étudiants de premier cycle à suivre au moins un cours sur les questions autochtones. L'Université de Victoria en Colombie-Britannique a quant à elle embauché 8 nouveaux professeurs autochtones depuis 2015. En comparaison, Concordia et les universités québécoises par le fait même ont encore du chemin à faire, souligne Sandra Gabriele, vice-rectrice de l'innovation en enseignement et en apprentissage. Mais Concordia, qui offre depuis l'automne 2013 une mineure et une majeure en études des Premières Nations, est sur le bon chemin. C'est facile de dire « allez lire le rapport de la commission ». C'est autre chose d'élaborer une approche cohérente en ayant 2 personnes à l'université pour aider toute la communauté à approfondir ses connaissances. Ailleurs dans la province, l'Université McGill, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, ont lancé depuis les 3 dernières années des concentrations et des programmes en études autochtones. En comparaison, l'Université de la Colombie-Britannique a un département d'affaires autochtones depuis... Depuis quand, vous pensez?
Pas très longtemps.
Depuis plus de 3 ans, en fait, ouais, depuis 2001. Alors, on est un petit peu en retard sur la Colombie-Britannique. L'Université du Québec à Chicoutimi offre également un programme de certificat en technolinguistique autochtone. Malgré les progrès, Donna Goodleaf estime qu'il y a encore beaucoup d'ignorance et de préjugés à déconstruire à l'université. Récemment, elle a décortiqué un cours d'introduction en immobilier. L'enseignant n'avait jamais rencontré une personne autochtone, encore moins dans sa position. J'ai dû lui donner une leçon sur l'histoire de la colonisation. Je lui ai dit « L'université est une entité corporative et il faut déconstruire cela. Et à la place, il faut un cursus qui aborde la relation entre les Autochtones et la Terre », indique celle qui, jusqu'à récemment, enseignait l'histoire des... Odeno... Excusez-moi, là, j'ai... C'est moi là, qui me ridiculise, c'est pas le nom. Les Odenos... Odenozoni, pourtant je m'étais pratiquée. Alors ça, c'est le vrai nom des Iroquois. Alors, on les appelle Iroquois parce que peut-être parce que c'est trop compliqué de dire le nom,
ben,
le vrai nom.
Ben oui,
alors ça s'écrit H-A-U-D-E-N-O-S-A-U-N-E-E. Alors donc, jusqu'à récemment, elle enseignait l'histoire de ces Odenozoni à l'Université Concordia. À l'automne, elle espère que l'enseignant dont on parlait là, d'introduction à l'immobilier aura tenu compte de ses suggestions. Elle pense faire un suivi à l'automne, mais pas question pour elle d'imposer quoi que ce soit. Ça, c'est la responsabilité de l'université, dit-elle. Alors, je vous parle du sport à Pikogan pour rapprocher les communautés autochtones. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous en parler parce que Pikogan, c'est la réserve autochtone qui est tout à côté d'Amos, la ville où j'ai grandi en Abitibi.
Ah oui?
Et à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, il y avait les étudiants, enfin les élèves, les personnes en âge d'être au secondaire, les élèves de Pikogan, donc ils venaient étudier à la même polyvalente que moi. Alors, c'est un article qui a été publié le 15 avril sur le site ICI Abitibi-Témiscamingue de Radio-Canada. Près de 2000 personnes ont assisté au 29e tournoi de hockey mineur et de ballon sur glace de Pikogan cette fin de semaine, donc la fin de semaine dernière, à Amos. C'est un texte de Marc-Olivier Thibault. Au total, 75 équipes représentant des communautés autochtones de partout au Québec et même de l'Ontario ont pris part à l'événement. Par ailleurs, pour une première fois dans l'histoire de la compétition, une équipe Mohawk de la communauté de Kanawagé participe à l'événement. C'est que le ballon sur glace est très populaire chez les Premières Nations. Le ballon sur glace, j'ai lu l'article au complet tout à l'heure. Puis... Ah oui, c'est ça, de hockey et de ballon sur glace. Voilà, c'est ça. Alors, le ballon sur glace est très populaire chez les Premières Nations, selon le membre du comité organisateur du tournoi, John Mowat. Je te dirais que chez les Premières Nations, c'est encore très populaire. On a regardé l'autre jour les tournois qui existaient dans les autres communautés et le ballon-ballet se retrouve beaucoup dans les communautés autochtones, Avez-vous déjà joué au ballon-ballet, Serge?
Non, jamais, jamais.
Il y avait, je ne sais pas si c'est encore très présent, mais et puis peut-être que c'est l'influence autochtone, je ne sais pas, mais moi, quand j'étais petite, mon père jouait au ballon-ballet, ma mère aussi, c'était très présent.
C'est ce qu'on appelle le curling en anglais?
Non, non, et on a vraiment un ballet dans la main et on pousse un ballon, d'où le nom du ballon-ballet, mais c'est sur patin. Ben,
puis le curling, c'est...
Est-ce que c'est sur patin ou c'est même pas? Je pense
non,
que c'est des
sur
souliers.
Patin.
Oui, c'est sur, mais
souliers,
c'est sur glace, c'est ça.
C'est
mais c'est
glace,
pas sur patin.
Ouais.
Non.
Ah, okay, ouais.
Bon, et je vais faire un article sur le ballon balai une autre fois. Alors, donc, monsieur Mohat, donc, qui est bénévole au tournoi depuis une dizaine d'années. Ah, non, excusez-moi, un autre bénévole, Rex McKenzie, qui partage aussi cette opinion. Il aime beaucoup assister au match de sa fille qui participe cette année à la compétition. C'est très populaire, le ballon balai. Ça se joue dehors, dans la maison, dans les cours. Et quand c'est ta fille qui joue, c'est encore plus le fun. Voir ta fille courir, faire des passes et compter des buts, c'est très excitant. Rex McKenzie, originaire de Pickogan, a participé au tournoi par le passé. Selon lui, l'événement est très attendu dans l'année puisqu'il permet de faire des nouvelles rencontres et de se retrouver entre amis. Ils aiment ça se rencontrer en groupe, comme les gens qui viennent de Rapid Lake, de Pickogan, qui viennent d'Obidjouan. Ils aiment se rencontrer ici à l'aréna. Ça fait beaucoup d'amis et des rencontres d'amis. John Mohat soutient que le tournoi est une fierté pour la communauté de Pickogan et que son succès tient à l'implication de 150 bénévoles.
Ooh.
Alors, rapidement, Serge, quelques petites pensées à partager?
Oui, mais je sais pas. Il y a Sacha Guitry, c'est sur les femmes.
Ah, ben écoutez.
Les femmes, on les a dans les bras, puis un jour sur les bras, et pour finir, sur le dos.
Moi, je vous dirais que c'est la même chose pour les hommes.
Ben, c'est ça. Une autre de Guitry. Mais ça, c'est pas sur les femmes.
Okay.
Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage.
Ah, ben merci beaucoup. Alors, c'est sur ces paroles rigolotes qu'on termine cette première partie.
Sagesse. Parole d'une grande sagesse.
Excusez-moi, c'est parole d'une grande sagesse qu'on termine la première partie de l'émission et on revient après une courte pause. Merci beaucoup.
Aujourd'hui.
Nous serons nombreux, nous cohabiterons ensemble, nous vivrons heureux, nous protégerons ensemble. que cette amitié ne puisse jamais se briser. Et si c'est le cas, il ne faut jamais oublier que tout peut se réparer. Bienvenue, bienvenue mon ami.
On vient d'entendre le Canadien Shawit avec la pièce Nuit Chakan qui en Innu signifie bienvenue. Bienvenue mon ami.
Et il y a toujours quelque chose de réjouissant quand on entend Shawit chanter et vous allez voir qu'il y a un lien avec l'article que je vais vous lire. Dans le titre, je veux un prêtre dans ma communauté malgré tout. Bon, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, il y avait ces scandales qui étaient ressortis là, d'abus sexuels et autres. Et donc, c'est un article qui fait un peu suite. C'est un article de Karina Marceau qui date du 16 avril. Rachel est Innu. Elle vit dans un petit village isolé de la Basse-Côte-Nord, là où la route ne se rend pas. La mère de famille a bien connu le père Jovenau, qui a vécu dans sa communauté pendant près de 40 ans. Heureusement, il ne l'a pas agressé, mais la femme de 52 ans est bien au fait des horreurs que le missionnaire aurait commises envers plusieurs membres de sa collectivité. Malgré tout, sa foi chrétienne reste inébranlable, et elle souhaite davantage de présence du prêtre en poste actuellement dans son village. La première fois que j'aperçois Rachel, elle est assise, chapelet à la main, à réciter à haute voix le Notre Père et le Notre Père et le Je vous salue Marie. En Innu Aïmoun, la langue des Innu. Avez-vous déjà entendu cette langue? On vient de l'entendre.
Ouais.
Je n'y comprends rien, mais même la plus banale des conversations résonne comme un hymne à la joie. Alors moi aussi, c'est un peu le sentiment que ça me fait quand j'entends cette langue-là. Je ne sais pas si Innu Aïmoun, oui, je pense que c'est la même langue. Il faudrait faire des recherches plus approfondies. D'ailleurs, Rachel rayonne la bonne humeur. Lorsque je m'approche d'elle pour entamer un échange, l'Autochtone m'accueille avec des rires de bienvenue. Ma saine curiosité à son égard n'a d'égal que l'ouverture qu'elle me manifeste. Rachel prie pour son frère hospitalisé à cette île. Des problèmes pulmonaires sérieux ont forcé son aîné à quitter Unamunchipu, où il n'y a qu'un centre de santé, pour aller se faire soigner en ville, à 400 km de la communauté Innu. Pour la sympathique femme, la prière peut aider son frère. Elle en est convaincue. C'est pourquoi elle reprend son chapelet plusieurs fois par jour. Il ne la quitte jamais. À force d'être manipulée, son objet de dévotion a fini par casser. C'est alors qu'elle revient d'une visite au chevet de son frère que je rencontre Rachel. Nous sommes alors toutes les deux dans l'unique bateau qui permet, en hiver, aux habitants des villages isolés de la Basse-Côte-Nord d'en sortir. Pour se rendre à cette île, la quinquagénaire a préalablement enfourché une motoneige jusqu'à Kegaska, là où la route 138 commence ou s'arrête, selon la direction d'où on arrive. De ce petit village de 127 âmes seulement, elle a pu se rendre en voiture jusqu'à l'hôpital. En Basse-Côte-Nord, les déplacements sont d'un exotisme nordique. Après avoir discuté de mille et un sujets pendant que Rachel tente de réparer son chapelet, j'ose lui demander comment elle réussit à demeurer une aussi fervente chrétienne malgré toute la souffrance occasionnée par le père Oblat qui aurait sévi sur la Basse-Côte-Nord pendant des décennies. Les témoignages accablants contre le curé, qui se faisait appeler Jésus, ne cessent de s'accumuler. Agressions sexuelles, agressions physiques, mariages forcés et déportations de famille. Une trentaine de victimes se sont inscrites dans une action collective contre deux pères Oblat, dont le père Jovenau. Rachel me fixe droit dans les yeux, avec un regard rempli de douceur. « La foi fait des miracles », me dit-elle, ajoutant du même souffle que sa croyance en Dieu et les obscénités perpétrées par le missionnaire n'ont pas de lien ensemble. C'est alors qu'elle me raconte sa grossesse inespérée à la suite de plusieurs fausses couches, après avoir été faire le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Les Innu, qui vouent un grand respect aux grands-parents, ont un attachement profond à l'égard de la grand-mère de Jésus. Chaque année, plusieurs d'entre eux entreprennent un long voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour participer à ce pèlerinage. Le miracle dont estime avoir bénéficié Rachel, qui sera grand-maman pour la première fois dans les prochains jours, a scellé à jamais la force de sa foi, quoi qu'il advienne. Mais il en est autrement pour d'autres paroissiens de la petite communauté d'Unamunchipu qui compte un millier d'Innu. La joie de vivre de la fidèle croyante s'estompe quand elle me raconte que désormais, seule une dizaine d'Innu vont à la messe lorsque le curé est au village. Il n'y a pas si longtemps, l'église était pleine. Il n'y avait même pas assez de place. Des paroissiens assistaient à la messe debout. Bien que de nombreux facteurs puissent expliquer la baisse d'intérêt des Innu d'Unamunchipu envers la messe, Rachel fait quant à elle un lien direct avec les dommages causés par le missionnaire Jovenau, qui aurait abusé de son autorité morale pour commettre une foule d'agressions envers ses paroissiens, provoquant du même coup le rejet de la pratique religieuse par plusieurs. Malgré tout, toutes les deux semaines, un prêtre d'origine camerounaise s'installe dans la petite bourgade accrochée en bordure du fleuve pour y faire la messe, ou célébrer des mariages et des funérailles. Il y reste 14 jours. Pendant la moitié du mois, donc, aucun célébrant ne donne vie à l'église. Une situation qu'aimerait bien voir changer Rachel, qui souhaite la présence d'un prêtre en permanence dans son village. Pour moi, avoir un curé dans ma communauté, c'est vital. J'ai reçu tous mes sacrements, du baptême au mariage, et je veux tous les recevoir d'ici ma mort. Pour la fervente catholique, des funérailles chrétiennes et un enterrement dans le cimetière sont les souhaits de fin de vie les plus fondamentaux. Si jamais on n'a plus de prêtre, qui va m'enterrer? Me questionne Rachel avec inquiétude. Le chapelet cassé que tente de réparer la dévote lors de notre conversation est à l'image de sa communauté, brisé par un homme de Dieu qui aurait déshonoré la confiance que les Innus avaient placée en lui. La communauté dans son ensemble a été agressée dans ce qu'elle avait de plus profond. L'église déserte, c'est le cœur du village qui est atteint. Mais Rachel, elle, garde espoir que tout ira mieux. La foi peut faire bien des miracles. Retiens ça, me dit-elle en guise d'au revoir. Et maintenant, vous allez nous parler de ce cher Jean Cocteau et de ses problèmes, de ses démons?
Les démons de Jean Cocteau. Alors, c'est un article qui est paru dans la revue, dans la revue Histoire de septembre 2003, à l'occasion d'une exposition qui était consacrée à Jean Cocteau au Centre Pompidou à l'époque.
Oui.
Alors, le Centre Pompidou, en 2003, a consacré une exposition à l'auteur d'Orphée, mort en 1963, soulignant son rôle central dans la vie intellectuelle. Non sans ambiguïté, comme le révèlent ses prises de position pendant l'occupation, entre opium, insouciance et amitié compromettante, un article d'Emmanuel Retailleau-Bajac, maître de conférence à l'IUT de Tours. « Mais comment aurais-je mon opium ?» se serait exclamé Jean Cocteau en apprenant l'ordre de mobilisation générale de septembre 1939.
Alors, ce qu'il chicotait, c'était pas de risquer de se faire tuer,
non.
Mais c'était de pas pouvoir avoir
son opium. Bon, peut-être apocryphe, la citation n'en illustre pas moins avec une certaine justesse l'état d'esprit de l'auteur des Enfants terribles à l'heure où l'histoire pénètre par effraction dans les univers privés. Écrivain, dramaturge, poète reconnu, cet homme de 50 ans est aussi un opiomane patenté qu'il entretient depuis 1924 avec la drogue, un flirt aussi poussé que douloureux. Accusant les vertus et les vices, la guerre va resserrer le nœud des contradictions autour d'un Cocteau qui toujours oscilla entre innovation et suivisme, avant-garde et grand public, audace et précaution, sans jamais vraiment se compromettre dans les conflits de la cité. Il est vrai que l'histoire entre en collision avec sa trajectoire personnelle à un moment pour lui crucial. En 1939, Cocteau n'a pas encore franchi les échelons ultimes qui mènent au sommet de la gloire. Il est certes l'auteur d'ouvrages à succès, un poète des plus en vue, une figure du tout Paris.
Eh oui.
Des titres comme « Parade »,« Orphée » ou « L'ange Heurtebise » ont créé un style, fait d'emprunt à l'air du temps et d'une mythologie très personnelle. Les champs de son activité défient les tentatives de classification. Roman, poésie, théâtre, cinéma, chorégraphie, dessin, l'artiste multimédia est né avec Cocteau.
Eh oui.
Pour être...
Mine de rien.
Ben oui. Pour être ample, la reconnaissance n'est toutefois pas unanime. Peut-être manque-t-il au prince des poètes la profondeur et l'homogénéité qui inscrivent dans le marbre l'œuvre d'un Proust, d'un Claudel ou d'un Gide. Bouffon, suiveur, opportuniste, depuis les débuts de sa carrière littéraire en 1909 avec le prince frivole, les qualificatifs stigmatisants ont plu de tous côtés, y compris de la bouche de ceux, Picasso, Satie, Gide et Mauriac, qui lui ont concédé leur amitié. L'œuvre, brillante et prolifique, déroute par son éclatement et ses méandres. Sous le vernis, les failles. Cocteau se dépeint lui-même comme un homme habité de fantômes, et sa vie personnelle, comme son œuvre, témoigne de sa difficulté d'être. Son père s'est suicidé quand il avait 9 ans.
Ah oui.
Couvé dans le giron d'une mère trop aimante, ce dandy a toujours fui les attaches, les responsabilités. Sa vie amoureuse, presque exclusivement homosexuelle, à tous égards exceptionnelle, fut une liaison en 1932 avec une princesse russe. Donc, sa vie homosexuelle s'est épanouie dans une aimable inconstance. Mais elle a été ébranlée en 1923 par un séisme dévastateur, la mort brutale par suite d'une typhoïde de Raymond Radiguet, l'auteur du bal du comte d'Orgel, son jeune et talentueux amant. De ce traumatisme date l'entrée véritable de Cocteau en opiomanie. Initié à la drogue par le musicologue Louis Lalloy, le poète éploré a tenté de dissoudre sa douleur dans la fumée. Le voilà embarqué pour un voyage de plus de 15 années qui font se succéder tempêtes et embellies, moments de magie pure et cure de désintoxication. En 1930, il fait paraître Opium, journal d'une désintoxication.
Ah oui.
Oui, recueil d'aphorismes sur la drogue, la poésie, la littérature. On voit s'y dessiner en filigrane une véritable philosophie de l'opium, substance par laquelle le poète dit atteindre la perfection et l'harmonie.
Ça doit être très difficile de se défaire de cette habitude-là, parce que d'après tout ce que j'ai pu entendre là-dessus, ça doit être assez formidable le sentiment qu'on a quand on prend la drogue. Donc...
Ouais.
Ah, ça doit être...
Mais de toutes les drogues, je pense. Hein,
mais il y a des drogues qui sont physiquement addictives, mais ça doit être aussi... Il y a beaucoup un aspect psychologique, j'ai l'impression.
Mais quand débute la guerre, ce climat idéal s'est déjà bien détérioré. Dans les années 1930, le joug de la drogue s'est appesanti et les succès littéraires mondains amoureux n'ont pas empêché Cocteau de sombrer dans des périodes de neurasthénie profonde. En 1937, il rencontre Jean Marais, acteur prometteur, et ange rédempteur, qui se donne pour mission de sauver Orphée de son enfer. Les événements de 1939 accélèrent le processus. Usé par l'opium et craignant les pénuries, Cocteau entre en septembre 1940 à la clinique du docteur Lyoté pour une ultime cure de désintoxication. L'âge, les circonstances expliquent cette décision. De même, peut-être que le désir de remettre son système à neuf pour affronter les tumultes à venir.
Ah oui.
Parce que les années
40 à 45... C'est pas très, très joyeux.
Non. Car la période exige une vigilance d'équilibriste et l'attitude de Cocteau durant la guerre est marquée du sceau de l'ambiguïté. Le caractère tragique des événements lui inspire une certaine ivresse à lui qui n'aime rien tant que se régénérer dans le mouvement et dans le drame. Je trouve cette époque passionnante, écrit-il à son ami Christian Bérard. A-t-il seulement pris la mesure du séisme politique? Il n'a jamais affiché d'opinion bien marquée. Son angélisme de poète, son goût du bohémianisme, peut-être aussi son homosexualité, et sa passion de l'opium, lui ont soufflé un amour vague de la liberté, lequel a pu lui faire considérer d'un œil aussi superficiel que bienveillant la situation de la Russie soviétique ou l'avènement du Front populaire. Il n'a pas suffi cependant à lui forger une conscience politique. Contre les clivages de la droite et de la gauche, contre aussi toutes les formes d'intellectualisme, Cocteau ne se réclame que d'un seul camp, celui des poètes. Voilà sans doute qui suffit à l'opposer aux écrivains collaborationnistes. Ces derniers ne s'y sont pas trompés, qui fustigent dans leur colonne « La machine à écrire », c'est le titre d'une pièce, jusqu'à interdire la pièce. Tout ce que pouvait représenter Cocteau avait certes de quoi hérisser les chantres haineux de la rectitude virile, qui attaque de la même manière la reprise des Parents terribles en 1942 et la pièce Renaud et Armide en 1943 en pleine occupation.
Eh oui.
Mais ces violentes prises à partie n'empêchent pas Cocteau de continuer à écrire, à publier sous la botte. C'est aussi durant cette période que s'épanouit sa carrière cinématographique avec notamment le scénario de L'éternel retour en 1942. Travailler, rester en activité, est, il est vrai, le souci premier d'un grand nombre d'artistes et d'écrivains. Et ils ne sont qu'une minorité à avoir opté pour le silence ou l'écriture clandestine durant cette période. Mais dans le cas de Cocteau, cette attitude frise parfois l'inconscience. Outre que le poète n'hésite pas à prêter sa plume à des revues telles La Gerbe ou Comédia sont devenues des foyers collaborationnistes, sa candeur ou sa légèreté le poussent parfois à la faute. Vieil ami du sculpteur allemand Arnaud Brecker, devenu l'artiste officiel du régime hitlérien...
Ah, quand même, hein?
Il publie en mai 1942, dans les colonnes de Comédia, un vibrant « Salut à Brecker ». Peut-être pas très...
C'est peut-être pas le bon moment.
Non. De même, s'il avait entrepris dès les années 1930 d'écrire des poèmes en allemand, leur publication en pleine occupation peut apparaître comme une provocation. Sans être lui-même très introduit dans les milieux allemands, outre M. Brecker, il voit essentiellement l'écrivain Ernst Junger. Cocteau n'hésite pas à dîner chez ceux qui, tels Sacha Guitry, Paul Morand ou Marcel Jouandeau, les fréquentent sans vergogne.
Mm-hmm.
Bref, si Cocteau n'a rien d'un collabo ou d'un antisémite, son manque de lucidité et son insouciance l'entraînent dans d'inutiles compromissions. La radio anglaise m'accuse de collaborer. La presse franco-allemande m'accuse d'être gaulliste. Voilà ce qui arrive aux esprits libres qui refusent de se mêler de politique et n'y comprennent rien, explique-t-il dans son journal. Sa réputation sulfureuse lui vaut de comparaître en novembre 1944 devant le comité d'épuration du cinéma, puis devant celui des écrivains.
Il y avait ça existait, ouais. Un comité d'épuration du cinéma.
Ouais, la France a été libérée en partie en 1944, la fin de la guerre a lieu en 1945, mais la France a retrouvé son autonomie, c'est redevenu l'État, et il y a eu évidemment des moments terribles de vengeance. On pense
de
à toutes ces femmes qui ont été rasées parce qu'elles avaient flirté avec des Allemands, et enfin, ça a été une période très triste.
Une période noire.
Ouais. Heureusement pour lui, des témoins prestigieux et sans tâche, Jean-Paul Sartre, Paul Éluard ou Louis Aragon, sont là pour témoigner de sa faveur. Si l'homme est disculpé en quelques minutes, l'image restera d'un poète que les auteurs de son Parnasse n'ont pas su protéger des sales éclaboussures de l'histoire.
Et de la Seconde, on passe à la Première Guerre mondiale. Trois Autochtones qui ont marqué la bataille de Vimy. C'est un article qui a été publié le 10 avril sur le site Espace Autochtone de Radio-Canada. Du 9 au 12 avril 1917, en pleine Première Guerre mondiale, Henry Norwest, George McLean et Sam Globe ont fait partie des nombreux Autochtones qui ont participé à l'assaut pour s'emparer de la crête de Vimy, dans le nord de la France.
Ouais.
Bataille qui était un moment crucial de la guerre.
Oui.
Difficile de savoir combien de soldats autochtones ont combattu au sein des quatre bataillons canadiens lors de cet affrontement mortel. Mais au moins 4000 Autochtones, soit un homme apte au service sur trois, se sont enrôlés au cours de la Première Guerre mondiale, selon Anciens combattants Canada. Parmi eux, plus de 300 ont perdu la vie. Ils pourraient être encore plus nombreux puisque certains ont combattu sous un nom d'emprunt. Le ministère dénombre au moins 50 médailles décernées à des soldats autochtones pendant la guerre. Henry Norwest, d'abord. Originaire de Fort Saskatchewan, en Alberta, le métis Henry Norwest a participé à l'assaut comme tireur d'élite. Il a obtenu une médaille militaire pour ses efforts dans la prise de contrôle du Bourgeon, un point élevé très important de la ligne de front. Il a fait preuve, je cite, d'une grande bravoure, d'habileté et d'initiative dans sa tâche de tireur d'élite après la prise du Bourgeon. Il réussit ainsi à sauver la vie de nombre de nos hommes. C'est ce qu'on peut lire sur l'inscription qui accompagne sa médaille. Notre célèbre tireur d'élite connaissait mieux que la plupart d'entre nous le prix de la vie et celui de la mort, témoigne Victor W. Wheeler dans un livre sur son expérience dans le 50e bataillon de Calgary. Il faisait preuve d'un détachement complet lorsqu'il se trouvait au front. Reste que le héros de guerre a failli voir sa carrière militaire avortée. En janvier 1915, il s'était d'abord enrôlé à Wetaskiwin, en Alberta, sous le nom d'Henry Louis, mais a été congédié en raison de sa mauvaise conduite. Il s'est enrôlé de nouveau avec un dossier vierge sous le nom d'Henry Norwest. Ensuite, George McLean, né à Kamloops, en Colombie-Britannique. Il était le fils unique d'Angèle Chilihitia, elle-même fils du chef de la bande indienne Upper Nicola. Il faisait également partie du clan McLean, l'un des plus anciens clans d'Écosse. Alors, c'est intéressant, ça, cette espèce de métissage entre une bande indienne et un clan d'Écosse.
Mm-hmm.
Il est connu pour avoir mené seul, pendant la bataille de la crête de Vimy, une attaque à la grenade contre une soixantaine de soldats allemands. Il avait sur lui une douzaine de bombes Mills, des petites grenades surnommées Anana. C'est ce qui lui a valu la médaille de conduite distinguée, la deuxième distinction la plus importante pendant la Première Guerre mondiale. À lui seul, il fit 19 prisonniers. Et plus tard, lorsqu'il fut attaqué par 5 autres prisonniers qui tentaient de s'emparer d'une mitrailleuse, il parvint, quoique blessé, à se défaire d'eux sans aide, prévenant ainsi un grand nombre de pertes, indique l'inscription. Et finalement, Sam Glaude. Ce Micmac de la Nouvelle-Écosse faisait partie de la 6e compagnie du Corps de génie royal canadien, chargée de creuser des tunnels et d'aménager des tranchées, notamment sur la crête de Vimy. Dans certaines régions, ses camarades et lui devaient creuser jusqu'à 25 mètres sous le sol, raconte-t-il dans les notes recueillies en 1944 par Thomas Randall et publiées dans le magazine de Cape Breton en 1984. « Je n'oublierai jamais la première nuit. Je suis resté debout pendant presque toute cette nuit à regarder les fusées éclairantes qui montaient comme des feux d'artifice au-dessus du No Man's Land. » Après l'armistice, la compagnie est restée active pour repérer les mines et les charges explosives. En moins de 48 heures, le caporal Glaude en a désamorcé lui-même 450. Il a obtenu une médaille de conduite distinguée. Il fit preuve d'un zèle extraordinaire dans sa tâche et demeura imperturbable face au danger, peut-on lire sur la citation qui l'accompagne. Alors, on revient au Canada et au présent. Traitement des Autochtones dans le système de justice, les Manitobains divisés. C'est un article qui a été publié le 16 avril sur Espace Autochtone également. Près de la moitié des Manitobains sont d'avis que le système de justice est inégalitaire envers les Autochtones, selon un sondage. 48% des Manitobains ont répondu non quand on leur a demandé si le système de justice était équitable envers les Autochtones à l'occasion d'un sondage effectué en mars par Probe Research. 56% ont répondu oui à la même question. Le sujet était au centre des discussions à la suite de deux acquittements très médiatisés en début d'année, ceux de deux personnes non autochtones accusées d'avoir tué de jeunes autochtones. On se rappelle sûrement là, de Gerald Stanley, qui a été acquitté en février de la mort par balle de Colton Bushy, âgé de 22 ans, Saskatchewan, et deux semaines plus tard au Manitoba, Raymond Cormier a été déclaré non coupable du meurtre au second degré de Tina Fontaine. Les acquittements ont été suivis par des manifestations et des marches partout au pays pour demander un changement au système de justice. Alors, Probe Research a interrogé un échantillon aléatoire de 1000 Manitobains entre le 12 et le 29 mars. Avec cet échantillon de 1000 personnes, l'entreprise affirme que le sondage est précis à 95% et qu'il présente une marge d'erreur de plus ou moins 3,1%. Mary Agnes Welsh, chercheuse principale à Probe Research, dit avoir été frappée par la répartition presque égale des réponses. Les Canadiens aiment penser que nous sommes un pays juste, que notre système judiciaire est l'un des meilleurs et que nous faisons les choses correctement. Je pense que lorsque de nombreuses personnes au Manitoba disent « En fait, nous sommes un peu inquiets à ce sujet, nous ne pensons pas que le système est juste pour un groupe important de personnes dans notre province », ce n'est pas facile à admettre pour les Canadiens. Le sondage a également démontré des variations notables dans l'opinion publique en fonction des caractéristiques des répondants. Par exemple, les résidents de Winnipeg, les femmes, et les membres de ménages à faible revenu étaient tous plus susceptibles de dire que les Autochtones sont traités injustement. Un peu moins de la moitié, donc 49% des résidents de Winnipeg, ont déclaré que le système était équitable, et alors que c'était 66% des résidents à l'extérieur de Winnipeg. 76% des partisans du Parti progressiste conservateur provincial ont déclaré que le système était juste, comparativement à 33% des partisans du NPD et 41% des partisans libéraux. Moins de la moitié des Autochtones estimaient que donc 47% des Autochtones estimaient que le système était équitable. C'est quand même beaucoup. Et comparativement à 58% des non-Autochtones. Le sondage ne demandait pas aux Manitobains si leur opinion avait changé à la suite des acquittements dont on a parlé plus tôt. Nous demandons si les Canadiens ont confiance dans l'ensemble du système de justice et comment ils traitent un groupe de citoyens précis. Et c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Sébastien La Liberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci à Serge Bradet.
Toujours un plaisir.
On souhaite retrouver notre ami Daniel Lachance rapidement. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous dis, passez une belle semaine et on se souhaite encore du beau temps comme hier. Au revoir!